Cette semaine, à la vie en BD, La Méduse, de Boom.
Ici Raymond Poirier, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Toujours un plaisir, évidemment, de vous retrouver ici à la barre de l'émission. Depuis déjà 11 ans, d'ailleurs, que le temps passe vite, autant dans les années qu'on a passées, autant dans les semaines, dans les mois qui nous restent au fil de cette saison qui va se terminer à quelque part en mai prochain. Et justement, en fait, cette semaine, on va plonger dans la bande dessinée, mais dans deux apports très différents que peut avoir la bande dessinée. Un très traditionnel, l'autre qui sort un peu des sentiers battus. Et les sentiers battus dont on sort, ce sera en deuxième partie d'émission, puisqu'on va aller voir une production théâtrale qui est présentée à Québec à partir du 30 mars prochain. Alors, une production qui s'appelle Ailleurs que maintenant, qui est offerte par Entracte, et une production qui intègre justement le dessin, qui intègre la bande dessinée dans le contexte de sa narration, mais également dans le contexte de son dispositif scénique. Donc, à travers du dessin en direct, à travers de l'intégration du dessin comme support de décor, entre autres éléments. Et justement, on veut voir un peu comment la production en est venue à intégrer la bande dessinée et comment elle a choisi et l'a exploré autour justement de l'intégration de la bande dessinée. Alors, on va en jaser avec l'auteur et metteur en scène Jean-François F. Lessard ainsi que l'illustrateur Guillaume Demers. Donc ça, ce sera en deuxième moitié d'émission. Et pour ce qui est de la première partie, on va plonger dans une bande dessinée qui s'appelle Rouge Avril, une bande dessinée de Sylvain Lemay et d'André Saint-Georges, et une BD qui s'insère un peu à la suite de Pour en finir avec Novembre, que les auteurs avaient commis il y a un peu plus d'une décennie, et qui reprend un peu le même principe au final, donc une enquête à saveur un peu policière, si on peut dire, ou à saveur roman policier, disons-le plutôt comme ça, sous fond de crise. Alors, pour le premier, Pour en finir avec Novembre, on était autour de la crise du FLQ dans les années 70, et dans Rouge Avril, les auteurs ont choisi de prendre pour décor la crise des carrés rouges, la grande grève étudiante de 2012. Alors, on va parler avec eux, évidemment, de ce décor, mais également des autres mécaniques de cette bande dessinée. Alors, c'est le menu pour cette semaine, ici, à La Vie en BD. Alors, on est un peu en mode rattrapage des bandes dessinées dont on tenait absolument à vous parler cette année. Et il y en a une qui s'appelle La Méduse. C'est disponible aux éditions Pawpaw, c'est de Boom. Et l'autrice est avec nous. Boom, bonjour.
Allô.
Alors, d'entrée de jeu, en fait, c'est une bande dessinée qui est centrée sur la vision, sur la perte de vision. Alors, peut-être de façon générale, comment est venue l'idée de cette thématique-là, de ce sujet-là, parce que je pense que c'est un sujet que tu as en tête depuis déjà un certain temps, là.
Oui, ça fait plusieurs années, au moins 15-16 ans, que j'ai des problèmes d'yeux, que j'ai des maladies oculaires. J'en ai plusieurs en même temps à mon actif, c'est bien le fun. Puis, La Méduse, en fait, ça vient de mon propre vécu. J'avais un espèce d'amas de flottants dans un de mes yeux, dans mon œil droit, en fait. Des flottants, la majorité des gens finissent par en avoir à un moment donné. C'est comme des petites taches un peu translucides dans l'œil qui viennent obstruer légèrement la vision. C'est un peu fatigant. C'est bénin. Moi, j'en avais une quantité astronomique qui était toute à la même place. Puis ça bougeait comme une espèce de gros blob dans ma vision. Puis ça faisait partie de ma vie. Là. Il y avait des jours où je n'y pensais pas, évidemment. Il y a des jours où il fallait, admettons, quand je faisais une ligne sur un papier, une ligne, mettons, précise, faire quelque chose au propre, il fallait que je regarde ailleurs pour que la méduse bouge et se tasse de ma vision centrale. Je faisais ma ligne, puis là, tranquillement, la méduse reprenait sa position. Là, je dis la méduse, c'est moi qui l'appelais comme ça.
Oui, on sent la ligne logique, dans le fond, tant qu'elle la voir d'en face tout le temps, autant mieux donner un nom. Oui,
c'est ça, c'était ma façon de l'apprivoiser. Mais bref, j'ai eu ça très longtemps. Puis, initialement, j'ai fait un pitch pour un concours de l'Office national du film Cinéaste recherché en 2010, j'ai envie de dire, je pense. J'étais à la fin de mes études universitaires en animation. Puis j'ai fait un pitch, puis là, après, c'était très simple. C'était un film de peut-être 5 minutes, fait que c'était un personnage qui avait une méduse qui flottait autour de lui. J'ai été finaliste, j'ai pas gagné, donc le film s'est jamais fait. J'ai mis ça dans un tiroir, puis je suis passée à autre chose. Puis
après mais en ça, 2019, j'ai commencé... dans le fond, tu l'as ressorti de ton tiroir?
Oui, ben en 2019, la maladie avait progressé aussi. Là, je m'étais... Après ça, j'avais eu des uvéites, je me noyais dans les gouttes oculaires qu'il fallait que je mette 12 fois par jour. Puis il y en a une qui rendait ma vision brouillée aussi hein, de façon permanente parce que ça dilatait ma pupille. Fait que là, je n'étais pas aveugle de mon œil droit, mais c'était pas le fun. Là. On s'habitue à tout, là, mais bon, ça fait que j'avais quand même progressé dans la perte de vision, si j'ose dire. Fait que là, bref, en 2019, j'ai sorti ça en me disant, il me semble que ça ferait un bon livre. Puis je m'étais dit... que la méduse sur papier, ça serait probablement plus poétique que sur film. Là, après l'avoir fait j'avais fait un storyboard, je me l'étais imaginé en animation, mais c'était une méduse. Puis là, bon, ben, dans mon livre, la méduse se multiplie éventuellement. Donc, j'ai décidé de faire ça en 2019. Ça m'a pris une année, peut-être, et quelques, à peaufiner tout ça. Là, bien faire macérer l'idée, écrire le scénario plusieurs fois, faire des designs de personnages. Puis bon, éventuellement, j'ai envoyé ça à Pau Pau, puis ils ont embarqué. Ça, c'était début 2021, février à peu près.
Donc, sur 12 ans, l'existence, dans le fond, de cette idée-là, 2018-2019, donc on se réapproprie le livre. Et dans le fond, ça devient un peu une auto-fiction au bout du compte, en termes de sujet, pas en termes de l'action qui s'y passe, évidemment, dans la mesure où ça devenait une façon pour toi de mettre sur papier ce que tu avais vécu, dans le fond, de l'amener, de profiter de la BD, de profiter du dessin pour mettre sur papier ce sujet-là, pour créer quelque chose autour de ce problème-là, de cette maladie-là, dans le fond.
Oui, mais je pense que le fait que j'appelais ça ma méduse déjà en partant, ça lui donnait un peu déjà une personnalité. Puis c'était déjà un peu assez poétique ou imagé, je pense. Imagé serait peut-être un meilleur mot, qui rendait ça plus facile à mettre sur papier. Mais là, ironiquement, tu sais, j'ai signé avec Papa en février, fin février 2021. Puis peut-être une semaine ou deux après, j'ai fait une névrite optique dans le même œil, au moins, tout dans le même œil. Et ben ça m'a complètement privée de la vision de mon œil. J'ai perdu l'usage de mon œil droit, finalement. Fait que j'ai passé quelques mois à l'hôpital à tous les jours ou presque. Je n'étais pas hospitalisée, mais j'y allais tous les jours. Les médecins de plusieurs départements essayaient de sauver mon œil parce que les névrites optiques, c'est réversible. Mais moi, j'ai fait une névrite optique sévère. Donc là, il y a des dommages permanents. Puis la vue est légèrement revenue. C'est pas 0%, je dirais, mais je suis quand même fonctionnellement borgne. Là. Il marche pas. Là. Si j'avais juste cet œil-là, je pourrais pas faire grand-chose toute seule. Mais, puis là, j'étais à l'hôpital, puis je disais que je faisais de la recherche pour mon livre que j'étais en train d'écrire. Fait que je suis retournée dans mon scénario, je suis retournée dans mon découpage, j'ai changé plein d'affaires. Mais tu sais, l'idée de base a pas changé. J'avais quand même décidé de prendre un chemin de... C'est pas mon histoire. Je donne mes problèmes de santé oculaire, finalement, à un personnage fictif, mais je prenais quelques libertés. Mais là, c'est quoi? C'est le karma. Là, quand j'ai perdu mon œil, je trouvais ça assez ironique, mais ça va. Bon, ça, je pense que ça a rendu le livre meilleur après.
Oui, puis j'imagine que même pendant la situation, le fait d'avoir un projet, d'avoir une façon de transformer en poésie, en beauté, quelque chose de grave qui se passe. Dans le fond, ça doit donner aussi quelque chose à quoi se raccrocher, justement, de dire, ben, au moins, je vais en faire quelque chose. T'sais. Au moins, ça va m'amener à quelque part. Puis ça va pas être juste un problème, juste une maladie, dans le fond.
Oui, ça fait longtemps que je me disais que j'allais probablement perdre cet œil-là avec toutes les maladies que j'avais eues. Je marchais dans la rue quand j'étais dans la jeune vingtaine. Je me cachais un œil. Je me disais, un jour, ça va être ça, ma vision. Peut-être que je suis devin. Mais oui, ça, c'est sûr, j'étais à l'hôpital à passer plein de tests et à perdre mon temps. Là, comme c'était en urgence, j'allais là puis je ne savais pas quand est-ce que j'allais repartir. Puis les médecins non plus. Ils me disaient, est-ce que vous pouvez rester? Le biologiste aimerait ça vous rencontrer, blablabla. Puis là, j'étais là-bas puis je me disais, mais je veux juste aller travailler sur mon livre, ça m'inspire, j'ai envie d'extérioriser ça, j'ai envie de dessiner. Mais même à ça, le dessin, ça a quand même été bizarre pendant quelques semaines. Là. Heureusement, le livre était juste au stade découpage, qui est dans mon cas un stade de dessin très, très rudimentaire. fait que j'avais pas besoin d'être bonne en dessin. Il y a eu un certain temps d'adaptation après pour que je retrouve, j'évalue mieux mes distances, mais j'ai aussi, je divague un peu, là, mais le livre est entièrement numérique. Puis c'était partiellement à cause de la perte de mon œil. J'ai pris cette décision-là en me disant, bon, en numérique, j'ai pas de misère à m'adapter, ça va mieux. Je peux faire Zoom, j'ai pas de... L'adaptation était plus simple en numérique. Fait que c'est
de donner des outils qui répondent un peu mieux à la situation qu'on est en train de vivre plutôt que de se mettre de se faire des jambettes additionnelles. Là.
Oui, c'est ça. Mais c'est plate parce que j'ai pas d'originaux. J'ai pas de page originale. Mais le livre n'aurait pas été aussi... Je suis assez fière du visuel de ce livre-là. J'ai vraiment travaillé fort, mais j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir à dessiner. Puis je pense que le fait d'avoir perdu un œil, d'avoir fait ça numérique, ça a quand même contribué, je pense, au plaisir. Je pense que j'étais en train de me dire « je peux encore dessiner ». Puis ça, je pense que le livre en est sorti meilleur à cause de ça.
Oui, en fait, c'est où l'état mental, l'état sentimental, l'état émotif était à ce sujet-là avec le vécu pour bonifier un peu cette histoire-là, puis sachant que en même temps, l'histoire est assez loin de toi aussi pour pas être entièrement autobiographique, donc pour pas être juste pogné dans cette réalité-là, mais pouvoir aussi explorer la vie de quelqu'un d'autre, explorer son quotidien, puis pouvoir prendre une distance aussi peut-être avec ce que tu étais en train de traverser à ce moment-là.
Oui, je pense que faire quelque chose qui était auto-bio, non seulement j'ai fait de l'auto-bio beaucoup avant, puis mon personnage, le personnage de moi-même est quand même associé à la comédie, ça n'aurait pas été super bon. Ça aurait été bizarre là, d'avoir quelque chose de plus sérieux avec mon espèce d'avatar que les gens sont habitués de voir, mais je pense que ça aurait été plate, ça aurait été beaucoup de rendez-vous d'hôpitaux, beaucoup de questions sans réponse, beaucoup de on y va à tâtons. Puis ben le fait de faire de la fiction avec ça, j'avais un certain recul, ça me permettait des libertés. J'ai tourné des coins ronds. Mon personnage principal dans mon livre a des rendez-vous chez l'optométriste, chez l'ophtalmo et à l'hôpital. Mais ça, c'est en accéléré. Ça m'a permis de jouer un peu avec ça. Elle a passé plein de tests, mais je pense que si ça avait été moi, j'aurais peut-être été... Je me serais peut-être sentie obligée de raconter en détail les platitudes les platitudes d'hôpital et de rendez-vous et de médecins qui bafouillent. Je ne sais pas. Je pense que c'est mieux de garder de la fiction. Un peu comme ce que Jean-Paulide a fait avec le petit astronaute. Ça lui a permis des libertés. Puis on lâche prise un peu. Mais c'est quand même honnête, je pense. Oui. En tout cas, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis.
Oui, puis en même temps, c'est que ça devient aussi, la méduse, on va parler, puis on va en reparler beaucoup de la notion de la cécité, de la perte de vue et le reste, mais c'est pas que ça non plus, parce qu'il y a un côté chronique du quotidien, puis je veux dire, ça commence, la méduse, elle est là dès le départ, mais au départ, c'est une histoire d'amour qui naît, au départ, c'est de l'amitié, au départ, c'est de la vie de famille, c'est la job, c'est un album qui est tout en lenteur aussi. Puis éventuellement, dans le fond, c'est la réalité médicale qui finit par rattraper l'histoire puis qui la détourne un peu du chemin vers lequel elle s'est orientée. Donc, c'est pas que sur, justement, cette situation médicale-là non plus.
Oui, il y a aussi... je voulais que les gens apprennent à connaître Odette, le personnage principal. Fait qu'il fallait quand même que je l'illustre en train de faire des affaires de vie ordinaire. Donc, elle va travailler... elle a un kick sur une fille, elle a un meilleur ami qui agosse un peu, mais qui, ça fait longtemps qu'ils se connaissent. Puis j'explique jamais que ça fait longtemps qu'ils se connaissent, mais je pense que ça paraît, que ça fait un bout qu'ils se tiennent ensemble. Puis ça commence un peu comme un petit quotidien un peu banal. Puis la méduse au début, c'est pas grand-chose. Même l'optométriste dit ça, il n'y a pas à s'inquiéter, tu vas t'habituer. Puis ça, c'est comme ça que je l'ai vécu moi. Puis la vie continue, on s'habitue, tu sais, on s'habitue à tout. Mais c'était important pour moi de mettre ça en scène pendant assez longtemps quand même pour que les gens s'attachent bien, pour qu'après ça, ils comprennent mieux qu'est-ce qui est en train de se... de se dérober à elle.
Oui. Puis en fait, qu'on s'habitue, hein, parce que la méduse, en fait, dont tu parles, je dirais, elle est là dans toutes tes planches, dans le fond, elle est toujours là. Et à un moment donné, c'est effectivement, tu sais, je veux dire, ça, de trouver une façon de nous rendre à nous, lecteurs, ce que toi, tu as vécu. Dans le fond, c'est cet petit objet-là parasitique, à un moment donné, on en vient à s'habituer. Puis là, oups, il y en a deux. Puis OK, ça gosse un peu. On continue. Puis après ça, oups, il y en a trois. Puis à un moment donné, ça devient lourd. Puis à un moment donné, ça prend toute la place. Puis c'est comme on a un sentiment de... On essaie de lire, on n'arrive plus à... On essaie de... Et dans le fond, progressivement, dans le fond, sans dire qu'on on ne vit pas, mais on ressent ou on comprend peut-être un peu mieux ce qu'Odette vit. Puis par extension, ben, ce qu'on comprend que toi, tu as vécu aussi autour de ça. J'imagine que c'est de réussir à... En fait, l'idée du moment où tu l'as trouvé, de dire, OK, c'est une bonne idée, on mise dessus, puis on crée cet effet-là, on l'utilise pour en faire un mécanisme très fort, là, au final. Là.
Oui, je l'avais dans ma tête depuis longtemps, puis je racontais ça au monde autour de moi, puis les gens étaient un peu comme, mais là, ça va-tu être lisible? Est-ce qu'on va pouvoir comprendre la BD quand même? Parce qu'il vient un point où les méduses cachent vraiment la majorité de la page, puis que ça commence à être compliqué de lire. Mais ça fait partie du livre aussi. Là. Moi, je veux que la lecture devienne difficile. Je veux que le lecteur ait de la misère. Je veux qu'il relise des cases. Je veux qu'il regarde la page, qu'il dise qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'il est obligé de reculer pour faire le ménage. Mais en même temps, j'ai tellement découper les mouvements d'une façon très, très lente pour que, idéalement, je ne perds personne en chemin. Mais oui, c'est comme si le lecteur, dans le fond, il vit la perte de vision, il y a de la misère à lire, à part le texte, parce qu'elle ben, n'est pas sourde, donc le dialogue, lui, est intact. Puis j'étais assez fière de mon idée, en fait. C'est angoissant quand je faisais les planches au brouillon puis que j'envoyais ça à mon éditeur. Il me revenait et dit « Mon Dieu, c'est tellement anxiogène ton affaire. » Je dis « Oui, c'est ça que je veux. C'est parfait. »
Oui, il faut trouver la bonne méduse justement parce que tu lui donnes, est un peu éthérée. Je veux dire, c'est pas une méduse, elle est un peu fantomatique aussi. Là.
Ben oui, ça a été un peu l'essai-erreur. Là. La méduse a changé de look plusieurs fois puis même... je pense que j'avais fait peut-être 40 pages au propre final, qu'à un moment donné, en faisant des tests sur une feuille, pas sur une feuille, mais sur mon iPad, mais sur un autre document, j'avais essayé une méduse un peu plus brouillon, un peu plus comme une tache d'encre. Puis là, j'étais vraiment restée bête en me disant, elle est vraiment plus belle que toutes les méduses que j'ai faites à date dans mon livre. Fait que je suis revenue sur toutes les pages, je les ai toutes changées. C'est que dans le fond, elle n'est pas dans le même monde. Il y a juste Odette qui la voit. Il ne fallait pas qu'elle ait l'air tangible, qu'il ne fallait pas qu'elle fasse partie de l'univers du reste de la BD, finalement. Mais ça, c'est ça, c'était l'essai-erreur.
L'essai-erreur, mais c'est cette texture-là qui fait que l'effet anxiogène à la fin marche aussi, je trouve, parce que justement, l'art du monde prend de plus en plus de place comme ça. Puis j'ai pas l'impression que tu aurais eu le même effet avec quelque chose de plus réaliste comme Méduse, dans le fond.
Oui, comme un gros, juste un spot noir plein. Là. Je trouvais ça intéressant et c'était d'autant plus proche de mon vécu qu'on voit un petit peu à travers par moment. Tu sais, il y a un topac au centre, mais là, les bords de la méduse sont translucides, fait qu'on peut voir un peu le dessin derrière. C'était aussi un peu pour me faire plaisir parce que la BD existe sans méduse. Hein. Il y a tous les décors, tous les détails sont quand même là derrière. J'ai fait une blague à mon éditeur qu'on devrait sortir une version de luxe un jour avec des pages en cellophane un peu, là, avec les méduses par-dessus, juste parce que je voyais tout le travail que j'avais fait. Puis après ça, je le recouvrais de méduses un peu, quasiment en pleurant. Là, bah, on ne voit plus rien.
Oui, puis c'est un peu ce que tu disais tantôt, dans le fond, sur les découpages. Dans le fond, ton découpage initial, les méduses ne sont pas dedans. Et donc, tu les rajoutes par après. Ça veut dire que soit d'un côté, dans le fond, tu choisis où tu la places pour quand même que le lecteur garde une compréhension, ou un peu comme sur les pages finales, ben, dans le fond, il faut carrément que tu anticipes un peu, OK, je vais les mettre là, 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 pour placer tes personnages en fonction du fait que ta planche va être à 80% médusée.
Oui, bien, au découpage, il y avait des méduses. Ils étaient moches, là. C'était je faisais ça bien, bien vite, là. Parce que comme je n'avais jamais dessiné mon idée, il fallait quand même que je me la représente pour que ça soit clair. C'était une partie, c'est intégral à l'histoire, fait que je n'avais pas le choix. Même avec mes petits bonhommes à lunettes de découpage, il y avait des méduses autour. Puis je les plaçais un peu aléatoirement au départ là, en me disant, je vais essayer de faire des compositions plus intelligentes que ça, mais ça va dépendre du dessin en dessous aussi. Fait que oui, il faut que vers la fin, il y a beaucoup de méduses, mais il fallait quand même que je fasse attention que certains détails n'étaient pas cachés pour qu'on puisse quand même avancer dans la lecture. Mais c'est pas aussi difficile que ça en a l'air, c'était juste long. Parce que j'ai pas triché, hein. Il y a des gens qui m'ont demandé, ah, c'est numérique, est-ce que tu t'es fait, on appelle ça des brushes, là, des pinceaux. J'aurais pu faire une brush de méduse, que quand je fais un trait de crayon, il y a juste plein de méduses qui suivent. Mais non, chaque méduse a été dessinée à la main. J'en ai jamais copié-collé deux fois. Ça faisait partie de... Je sais pas, c'était quasiment... Je me sentais comme un moine dans un monastère. Là. C'était méditatif. C'était long, mais c'était méditatif. Puis c'était pas désagréable.
Un côté presque protocolaire. Là, où,
oui, oui. À la fin, j'étais assez rapide pour les faire quand même. Mais tu sais, il y en avait 300 sur la page. Ça compensait pour d'autres choses.
Oui, puis est-ce que ça devient un peu dans le mapping, dans le fond? Parce que si on reste un peu sur ton storyboard, sur ton scénario-image, dans le fond... Donc, tu dis, OK, pour, mettons, les 30 premières, il y en a une. Après ça, OK, il y a tel rendez-vous, on commence à en ajouter. Puis que tu avais un peu un mapping de progression de crescendo parce que ça y va de lentement. Puis après ça, à un moment donné, ça s'accélère. Puis là, ça explose, dans le fond, au bout du compte. Donc, ça devenait un peu une partie de ta progression, un peu comme... Dans le fond, donc, tu avais vraiment planifié, OK, mettons...
Oui, non, j'avais planifié... La première méduse, quand il arrive une deuxième méduse, c'est clairement c'est un peu comme l'événement déclencheur. Il y a deux lignes narratives dans mon livre. Il y a la ligne de la santé, puis il y a la ligne de le reste, la vie amoureuse et tout ça. Puis les deux sont en parallèle. Puis ça aussi, c'était très intentionnel parce que sans l'histoire d'amour, je pense que dans l'histoire d'amour, il y a de l'espoir. Il y a le fait d'être entouré, d'avoir des amis, des gens... qui nous aiment, qui veulent prendre soin de nous, tout ça. Puis dans un contexte de maladie grave et surtout de probablement perte d'autonomie un peu, tu sais, quand même, ça prend des gens autour de ça. On peut s'accrocher à ces gens-là, puis bien, mon personnage, elle trouve ça difficile. Mais c'était important pour moi d'avoir ça pour que ça soit quand même un peu lumineux, que ça soit pas juste « tout va mal, ça va mal, fin ». Puis, j'ai tout arrangé pour qu'il y ait un peu de joie, d'espoir. Oh, ça va moins bien. Ah, finalement, on va s'arranger. Oh, non, là, ça va moins bien. Bien évidemment qu'à un moment donné, il y a la chute et tout ça. Là. Mais d'ailleurs, parlant des deux lignes là, narratives, là, peut-être que j'en dis un peu trop, mais ça va peut-être être bon pour les lecteurs, pour qu'ils soient plus observateurs. Est-ce que tu avais remarqué qu'au début, dès que Naina, dans le fond, la nouvelle copine de Odette, est présente, as-tu remarqué qu'il n'y avait pas de méduse?
À certains moments, on trouvait qu'il y en avait moins, effectivement.
c'est parce que ça représente le fait que quand on est bien, on y pense moins. La maladie prend...
Le focus est ailleurs. C'est ça,
le focus est ailleurs, la maladie est en arrière. Elle va toujours être là. Mais bon, évidemment, il vient un point où la maladie est trop intense pour être ignorée.
Alors... Puis en même temps, pour moi, tes deux trames, c'est aussi je trouvais intéressant que l'histoire de la méduse, s'il n'y avait pas eu la maladie, tu aurais pu nous la raconter pareil. Je veux dire, il se passe des affaires, l'histoire d'amour, elle va bien, mais il y a des moments difficiles. Dans une logique chronique du quotidien, il y a des choses qui se passent, puis la maladie vient un peu fausser, au bout du compte, ou changer cette histoire d'amour-là aussi. Comme tu dis, elle apporte l'espoir, mais... qu'elle aurait pu s'autosuffire si Odette aurait été exempte d'enjeux médicaux?
Ouais, ça aurait été un petit récit un peu plus
vite. Un récit plus ordinaire, si on s'entend. Mais ça aurait été un récit pareil.
Oui, ben oui. Mais la maladie a quand même une influence sur l'histoire d'amour aussi.
Exact. Mais rendu aux deux tiers où on peut plus... Où dans le fond, Odette a le choix soit justement d'accepter puis de le communiquer puis qu'elle est confrontée à la réalité de cette maladie-là parce que même pendant une bonne partie de l'album, elle essaie de le nier, elle essaie de le cacher, elle n'en parle pas ou à part à son ami, mais sinon, c'est secret d'État, là, dans le fond.
Ben, c'est ça. Je pense que c'est indispensable aussi à l'évolution du personnage, là. Je pense qu'un récit devient intéressant si le personnage évolue. T'sais, s'il ne change pas du début à la fin, ça servait à quoi cette lecture-là, t'sais, finalement? Puis bien évidemment que la maladie va façonner le caractère d'Odette. Et on suppose aussi après la fin du livre, là, moi je ne le dis pas, les gens se l'imagineront, mais clairement son développement à elle n'est pas fini. Puis bon, c'est plate, mais ce genre de maladie-là, ça change. Puis c'est ça que je voulais raconter en ayant un peu aussi de... Il y a comme le point central, il y a la personne malade, mais il y a aussi l'influence que la maladie a sur les autres autour d'elle. Sa mère, ses parents ne sont pas très présents dans le livre, mais il y a quand même une influence sur eux autres éventuellement, sur ses amis, puis sur ce qu'ils pensent de tout ça, puis de ce qu'ils peuvent faire pour elle. Pas pour la maladie, mais pour Odette.
Oui, puis qu'on connaisse assez Odette, qu'on connaisse assez la nature de la relation qu'elle a avec chacun pour comprendre pourquoi, au moment où elle essaie de s'encarcaner dans son problème, de faire le vide autour d'elle, parce que dans le fond, c'est une colère, une frustration, des émotions intenses qu'elle vit par rapport à ce qu'elle traverse, bien qu'eux vont quand même se raccrocher à elle, qu'eux vont quand même, ça, sans trop en dire, mais j'ai l'impression qu'on raconte la BD, mais je fais la parenthèse pour dire qu'on veut que vous la lisiez, elle est très bonne. Et juste en parler, c'est pas la lire, parce qu'il y a une narration visuelle qui est très importante à travers tout ça. Donc, toutes les meilleures évocations du monde ne remplaceront pas la bonne lecture. Mais dans le fond, ça devenait nécessaire aussi justement pour comprendre l'aide qui allait lui être offerte aussi, dans le fond.
Oui, c'est difficile de parler de mon livre sans tout raconter.
Oui. Au final, c'est ce que je me rends compte.
C'est difficile aussi le prendre dans ses mains. C'est pour ça aussi que j'ai assumé tout de suite. Là. Dès qu'on a l'objet dans ses mains puis qu'on le feuillette, on comprend tout de suite qu'est-ce qui va arriver. T'sais, sans nécessairement aller dans les détails, là, juste sur la tranche, on voit que le livre est de plus en plus noir. C'est inévitable. C'est un livre extrêmement facile à divulgâcher. Par contre, je pense que en connaissant ça, il y a quand même... Je pense que le plaisir, c'est dans la lecture, puis de découvrir aussi, puis je pense que c'est de le vivre. Oui, là, je parle de mon livre, j'essaie d'être le plus humble possible, mais c'est quand même...
En fait, je vais prendre la part de l'anonymité pour toi dans ce cas-là, mais tu sais, pour moi, il y a des livres qui sont des expériences. Puis dans le fond, qu'on peut en parler, qu'on peut l'analyser, qu'on peut le disséquer autant qu'on veut, mais je pense que tant et aussi longtemps que quelqu'un ne l'aura pas pris, puis ne l'aura pas lu, puis pas feuilleté, lu, bien, il ne comprendra pas exactement de quoi on parle, puis qu'est-ce qu'on essaie d'expliquer aussi, parce qu'il y a un côté expérientiel là-dedans à ça. Puis j'imagine que ça devait être un défi pour toi dans la création, parce que tu dis, tu sais, prendre le livre dans tes mains, mais tu l'as fait en numérique. Donc, l'effet résiduel, tu l'as vu juste quand ton livre est arrivé physiquement.
Oui, c'est pas pareil. Quand je le regardais sur l'écran, tu te fais une idée, mais je ne savais pas du tout que ça allait paraître sur la tranche. Puis, je ne savais pas du tout non plus. L'expérience d'un livre, tu le vois, tu le touches, c'est tactile, puis tu sais... Le nombre de pages qui te restent à lire, le nombre de pages que tu as lues, tu as une espèce de rapport physique avec la lecture, finalement, quand c'est un livre dans tes mains, là, c'est pas pareil sur numérique. Puis quand je l'ai lu dans mes mains, c'était weird de le regarder, de le feuilleter, puis c'était comme si c'était pas moi qui l'avais fait, parce que je l'avais pas vu comme ça. Mm-hmm. Puis je le regardais, tu sais, je reconnais mes dessins, là, c'est correct, j'étais contente de l'impression, puis tout ça. Mais c'est de le voir tout ensemble, puis de voir la progression des méduses, puis juste de passer à travers les pages, je me disais, OK, c'est vraiment, c'est assez cool, puis j'avais pas pensé que ça allait être comme ça. Moi, je pouvais pas me l'imaginer physiquement, je l'avais pas vu comme ça, puis c'est, mon cerveau avait pas remplacé, il avait pas mis d'image là-dessus, fait que ça a été une surprise quand je l'ai reçu, j'étais assez, assez contente, puis je suis aussi très, très contente de la réception du livre, là, c'est inespéré. Là. Je pensais pas... J'ai tellement passé de temps là-dessus. Là, après avoir perdu un œil, je me suis mis à travailler là-dessus à temps plein. Fait que ça a pris peut-être un peu plus qu'un an et demi de dessin. Ou un peu moins. Un an et demi, une couple de mois pour le crayonner. Puis après ça, je pense 9 mois pour le propre. Puis quand tu as le nez dans un projet, puis tu peux pas vraiment... le partager. Là. J'ai eu des lecteurs, là, j'ai des amis qui l'ont lu, mon chum l'a lu, puis mon éditeur, évidemment. mais tu as le nez dedans pendant tellement longtemps qu'à un moment donné, tu t'en viens à dire « C'est-tu bon? J'ai aucune idée. Je sais pas. Est-ce que les gens vont trouver ça intéressant? C'est une série d'anecdotes. J'avais l'impression que je racontais juste des platitudes du quotidien. Je me disais, les gens ne trouveront pas ça intéressant. Est-ce que l'affaire de la méduse, ça va les gosser? Est-ce que ça va les toucher? J'espère. En tout cas, j'avais aucune idée. Puis vers la fin, là, je penchais pas mal du bord de bon, ben, qui sera, sera. J'ai fait de mon mieux. J'ai travaillé comme une folle. J'ai gaspillé mon été. J'ai travaillé tout l'été. Dessus, comme je veux dire, travailler là, jusqu'à très tard le soir, toute la journée. Mon chum a pris toutes ses vacances pour s'occuper de nos enfants, pour que j'aie la paix puis que je dessine. Fait que j'ai pas vraiment vu le soleil. On est allé nulle part. Puis c'est ça, après ça, il est sorti. Puis là, il y a eu les délais, la pénurie de papier, puis tout ça. Puis je pense que je m'étais dit, bof, j'ai fait mon possible. Puis là, il sort, puis j'ai tellement une réponse positive puis des beaux commentaires que je suis un peu sur mon petit nuage de... J'en reviens pas. C'est vrai, c'est moi? C'est moi qui ai fait ce livre-là? C'est particulier.
Oui, puis d'autant, en fait, dans le contexte de tu étudiais avec la perte d'un œil, ben, je veux dire, il faut réapprendre un peu à dessiner, il faut réorienter les expertises, les positions qu'on avait avant qui ne marchent pas nécessairement exactement. Après ça, OK, le numérique, c'est un médium à s'approprier. Puis dans un contexte où, d'un point de vue graphique, ben, on se rapproche peut-être un peu plus de la petite révolution que des boomeries en termes de style aussi ou de certaines autres productions que tu as faites depuis. Donc, ça fait beaucoup d'éléments, j'ai l'impression, qui se mettent côte à côte pour... Pour te donner que je me sente comme un extraterrestre.
Ouais. Oui, je pense que c'est ça aussi. Je disais aux gens que je travaillais sur un livre dans le genre de La Petite Révolution. Mais La Petite Révolution, c'est un livre qui a 10 ans. Ça a sorti en 2012, en novembre, je pense que c'est quasiment 10 ans jour pour jour. Puis ben, en 10 ans, il se passe pas mal d'affaires. j'ai pas mal plus d'expérience maintenant. En dessin aussi, ben, je me suis améliorée, puis je me suis beaucoup améliorée en faisant ce livre-là. Comment s'améliorer en dessin, faire un long projet de longue haleine, ça, c'est une bonne façon de s'améliorer.
Et dans le fait, est-ce que ça va prendre un autre 10 ans pour faire un livre dans le genre de La Petite Révolution, ou est-ce que c'est
non,
le genre
non, j'espère
de...
que non, mais là, je suis un peu dans le néant, là. Je suis dans une espèce de post-partum. J'ai tellement travaillé dur là-dessus pendant longtemps. Puis, c'est la première fois aussi que j'ai rien qui m'attend à la sortie. D'habitude, je fais un livre, puis j'ai une autre idée qui me trotte dans la tête que j'ai hâte de faire. C'est un classique que pendant que tu travailles sur quelque chose, tu as hâte de faire l'autre. C'est tout le temps comme ça. Mais La Méduse, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas fait la BD de fiction. Puis, ça faisait longtemps aussi que je n'avais pas dessiné ce style plus... C'est pas réaliste, là. Ils ont des poids à la place des yeux, mais n'empêche... c'est plus réaliste que les boomeries. Mais moi, c'est comme ça que je dessine. Si tu me laisses dessiner, c'est comme ça que je dessine. Les boomeries, c'était mon style là, rapide sur le coin d'une table. Mais je me suis fait connaître comme ça d'abord. C'est quand même drôle. Là. Mais là, ça, c'est plus moi. Fait que ce livre-là, c'est probablement le livre qui est le plus moi, malgré le fait que les boomeries, c'est de l'autobio. Je me contredis un petit peu, finalement.
En fait, c'est plus toi dans le style puis dans le volet, justement, papier, l'expression artistique versus dans le sujet puis dans la mise en scène de soi.
Oui, c'est ça.
Malgré qu'encore là, quoique.
Quoi ben, que... c'est ça. Mais finalement, je dis n'importe quoi. Je pense que j'essaie toujours de rendre mes projets le plus personnel possible. Moi, je suis de l'école de pensée que j'écris tout. En tout cas, moi, personnellement, j'écris mieux ce que je connais. J'ai de la misère à sortir. J'aimerais ça, là, écrire. Quand j'étais ado, j'avais écrit un roman là, de science-fiction là, qui se passe sur une autre planète. Puis c'était l'épique de ma vie. Là, j'ai écrit un roman de genre 500 pages. Puis j'aimerais bien l'adapter en BD, mais j'ai un gros travail de modernisation à faire et faut que je coupe dans le gras là-dedans. Mais je pense que ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de faire un projet comme La Méduse que je me suis emportée. Là, j'ai vraiment travaillé fort dessus. Puis là, j'ai plus rien qui m'attend. J'ai pas d'autres idées prêtes. J'ai juste des bouts de peut-être Oh, faire quelque chose qui se passe dans les années 90. Ah, oh, peut-être que j'aimerais ça faire quelque chose de... Mais on dirait que je suis vidée. Puis je pense que j'ai des trop grosses attentes aussi. Là. On n'est pas obligé de se remettre à travailler sur un autre livre dans la seconde. De toute façon, je ne serais pas capable. Là. Je me sens comme au bord d'un... Ça fait plusieurs... à plusieurs personnes que je dis ça. Je me sens comme au bord d'un ravin où est-ce que j'ai rien d'autre à raconter. Puis je pense que le fait que la Méduse soit bien reçue, ça me met vraiment beaucoup de pression pour le prochain. J'aimerais ça faire quelque chose dans le même style, le même genre de récit, parce que là, moi, j'ai eu du fun, puis clairement, le public aime ça. Mais là, pour l'instant, je ne pourrais pas dire quoi. Je suis perdue. Fait que je vais prendre un petit moment pour...
Oui, ben avec l'intensité, je veux dire, ce que tu as vécu, la création et le reste, je pense que de toute façon, c'est juste sain de prendre un moment de...
Oui.
Pour nous laisser lire, nous laisser découvrir, nous laisser continuer à faire des bons commentaires avec ce livre-là, puis on te retrouvera en cours de parcours.
Oui. C'est, vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Je vais continuer de faire de la BD. J'aime trop ça pour arrêter.
Et d'ici là, ben, je le rappelle, la bande dessinée s'appelle La Méduse. C'est disponible aux éditions Pawpaw, c'est de Boom. Samantha Genet, Le Riche, Boom, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Toujours à l'écoute de La Vie en BD, toujours en compagnie de Raymond Poirier. Et maintenant, Raymond Poirier est en compagnie de Marco Duchesne. Bonjour, Marco.
Bonjour, Raymond.
Alors, tu étais devant ta bibliothèque, tu parcourais tes exemplaires de la revue dessinée et suite à l'offre d'une carte blanche, tu t'es dit, mais pourquoi pas justement nous amener sur le terrain de la renaissance de ces magazines BD et plus précisément aussi des cahiers de la bande dessinée.
Oui, ben en fait... Historiquement, la BD, l'album est venu un peu plus tard dans le format de diffusion de ce médium. Au tout début, la BD était transmise par des magazines spécialisés. Là, en Amérique, c'était plutôt les journaux. Les BD étaient quotidiennement publiés dans les journaux en strip. Et le dimanche, ils avaient le droit à une page complète, couleur, qu'on appelait les Sundays. En Europe, en France et en Belgique, des magazines spécialisés comme le journal Spirou paraissaient toutes les semaines et d'autres comme Cœur Vaillant, Mickey Magazine qui était hyper populaire en France.
Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup de magazines, somme toute.
À cette époque-là, c'était et à cette occasion-là, on publiait de la BD. Et à un moment donné, on a commencé à penser à ramasser les BD en album quand c'était de l'humour ou si c'était une histoire qu'on s'était mis à faire raconter des histoires en continuité à toutes les semaines, tout dépendant de la publication, la fréquence de publication des magazines. On a commencé à les publier en album.
Oui, puis c'est vraiment passé. Il y a un passage où le gros de la production, c'est devenu des albums.
Des albums.
Un peu comme si les magazines sont passés, je ne dirais pas en désuétude, mais un peu la prépublication ou un marché secondaire.
En fait, les éditeurs, voyant cela comme qui était bon, ils ont décidé de prépublier les histoires dans les magazines. Donc, les maisons d'édition se sont comme associés à certains magazines ou ont créé des magazines. Alors, jusqu'à l'arrivée des années 60, là, les magazines s'adressaient presque exclusivement à la jeunesse. Mais arrivent les années 60 où là, on voit un peu la BD mûrir, devenir un peu plus mature. Et là, arrive Pilote, parrainé par les éditions d'Argo. Alors, Pilote va aussi donner dans le magazine, et là, le magazine de BD va devenir adulte avec des magazines comme Métal Hurlant, avec des magazines comme À suivre de la maison Casterman.
J'étais un peu en avance avec mon intervention tantôt, parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment un âge d'or du magazine.
Oui. Mais le magazine avait toujours cette fonction-là de prépublier les auteurs, de les faire connaître. Il y avait des articles, des rubriques à l'intérieur, un peu de critique, mais le but du magazine était essentiellement de prépublier, de faire connaître ces auteurs à la maison d'édition. Mais dans les années fin 70, début 80, la BD qui a pris une grande maturité, la BD a commencé à s'adresser à des adultes, mais et les auteurs ont commencé à raconter des histoires pour adultes, pour plus que la jeunesse. Mais la BD a commencé à réfléchir, des auteurs, des gens qui ont commencé à réfléchir sur la BD, sur ses codes, sur sa façon de fonctionner, sa définition, tout ce qu'elle représente. Et ces gens-là, c'était inspiré à l'époque, rappelle-toi, la nouvelle vague au cinéma. Le cinéma avait déjà sa lettre de noblesse, c'était le 7e art. La BD, c'est venu plus tard, mais le cinéma avait déjà ça. Et là, on est en pleine nouvelle vague au cinéma et les intellectuels ont créé les cahiers du cinéma. Alors, s'inspirant de tout ça, les penseurs de la BD, entre autres Thierry Grunstein, Sol de Rennes et bien d'autres, ont décidé de partir un magazine. Mais celui-là n'aura pas de prépublication. Celui-là va s'appeler les cahiers de la BD en hommage. Hein? Et on va y réfléchir sur la BD. On va y mettre des dossiers sur des œuvres, sur des auteurs, des dossiers sur des genres. On va y réfléchir. On va faire des entrevues très étoffées avec des auteurs, avec des créateurs pour savoir comment ils fonctionnent, comment ils travaillent. Et ces cahiers de la BD, était moins axé sur l'iconographie. Tout était en noir et blanc à l'intérieur.
C'était des magazines de contenu plus que de contenant, dans le fond.
Et voilà, là, on avait le contenu était à la majorité. Et ce magazine-là a duré assez longtemps. Et est arrivé les années fin 90-2000, où là, soudainement, tous ces magazines ont fini par mourir. L'avènement d'Internet, la façon de s'apprivoiser de contenu sur la BD, c'est comme dispersé à travers le net, mais aussi l'intérêt y était peut-être moins. Bref, chacun de ces magazines a fini par s'éteindre, et les cahiers de la BD aussi. Ça n'a pas empêché les auteurs de faire des albums en BD, et ça n'a pas empêché les intellectuels, ceux qui réfléchissent sur la BD, de faire des livres. De temps en temps, et de travailler à certains, pas magazines, mais plus pointus.
Oui, parce que ça nous a ramené peut-être vers l'académique, vers le web, vers d'autres outils de diffusion ou d'autres cadres de recherche comme tel que la BD sur la BD, mais en même temps, ça laissait un vide parce qu'il n'y a rien qui est venu remplacer ça non plus. Alors que les cahiers du cinéma que tu mentionnais ont continué d'exister, des publications spécialisées en théâtre, en poésie, dans les autres genres littéraires continuaient à exister, des publications plus entre guillemets savantes. Là.
Et c'est pour ça que récemment, le magazine, en fait, est mort. Vive la revue. Parce que maintenant, on a vu poindre à l'horizon. Et une des premières a été, rappelle-toi, cette vague, ce tsunami qui est le genre la BD reportage, qui nous a envahis tout d'un coup il y a quelques années, il y a plusieurs années, était devenu très populaire. Et un des magazines de reportage avait décidé de créer une revue format livre qui s'appelait la Revue Dessinée et qui traitait de l'actualité, mais en bande dessinée. Et ce format-là, revue, format livre, a vu ce modèle-là s'épanouir dans toutes sortes de genres en bande dessinée. La revue Topo, qui est le même principe, mais pour les adolescents. Quelques-unes de ces magazines-là qui sont devenus des revues. Ben, les cahiers de la BD, a vu sa renaissance aussi il y a à peu près 2 ans avec une nouvelle mouture. Et là, on a gardé le nom, les cahiers de la BD. Bien évidemment, on a relooké la chose pour être plus moderne, pour être plus actuel. Les cahiers de la BD maintenant sont un format revue, format livre. Beaucoup de rubriques. Je me disais, cette nouvelle mouture-là ressemble beaucoup à un site web. Et à l'intérieur, on a l'impression d'être sur un Facebook. avec ses sujets et tout. On a gardé le principe du dossier. À chaque numéro, on garde l'idée du dossier, un dossier étoffé sur un personnage, sur un auteur, sur un genre, sur une œuvre. Et on le développe en deux ou trois articles. On a aussi installé des rubriques un peu plus actuelles, plus courtes, d'une page. Ça vient, ce nouveau format-là vient avec ce qu'ont installé les médias sociaux. C'est-à-dire, on passe de moins en moins de temps à lire des choses qui se veulent plus brefs, plus concises, plus rapides, parce qu'on n'a plus le temps de lire des choses à développer. Et si la nouvelle mouture du cahier de la BD est jolie, et l'iconographie, laisse-moi te le dire, avec
c'est moins austère qu'à l'époque, disons.
Le progrès de l'impression et tout nous arrive avec de jolis modèles, mais elle prend beaucoup de place. Dans les interviews, il y a des interviews avec des images de l'auteur et effectivement, quand arrivent les dossiers, l'iconographie est très présente. En fait, si on peut lui faire ce petit reproche-là, c'est qu'elle est présente, beaucoup présente, ce qui parfois, à mon avis, enlève un peu plus de...
Un peu comme si on avait envie d'accompagner ou de suraccompagner par la lecture, de peur d'être rébarbatif par rapport au type de contenu qu'on propose, alors que les gens viennent là pour le contenu, justement.
Tout à fait. Ben, c'est sûr que c'est pas le truc le plus populaire ou le plus commercial, mais à mon avis, dès sa renaissance, je pense qu'on a voulu vraiment toucher un plus grand public. Si les cahiers de la BD étaient avec les dossiers très étoffés, mais avec des choses plus, plus théoriques, parce que c'est les cahiers de la BD, la première mouture, c'était ça, ça a été le bassin où a fleuri un peu une certaine critique, une certaine théorisation de la bande dessinée.
Oui. Puis en fait, une critique qui va au-delà de la critique web ou de la critique qu'on fait ici aussi.
Là, je te parle vraiment critique.
Exact,
là.
Vraiment. Elle est analytique, une critique littéraire, voilà. En fait, voilà. Au sens réel.
Critique au sens de décortiquer et de faire avancer
d'analyser
les théories de la BD. Mmh. Alors, la nouvelle mouture, évidemment, est plus grand public et a une vision un peu plus actuelle de la BD. Si à une époque, la BD peinait à se faire connaître, à se faire légitimer par le littéraire.
Oui, c'était un peu les cahiers de la BD étaient un effort de légitimisation à l'époque aussi, de dire, ben, dans le fond, voilà, on fait une analyse savante, en fait, de notre médium, on réfléchit à son médium, on réfléchit à la manière de le mettre en scène, de l'aborder, etc.
Voilà, et les cahiers, la nouvelle mouture, elle, n'a pas à se battre avec ça. Maintenant, on le sait, la bande dessinée, au niveau, c'est vraiment affirmé et s'affirme encore de plus en plus. Les auteurs sont reconnus, même au Québec. Le talent qu'il y a au Québec, c'est incroyable et ils se font connaître ailleurs grâce à réseaux sociaux, grâce à la facilité qu'on a maintenant à voyager, à être dans le monde, à fréquenter les gens. Et cette nouvelle mouture-là, c'est ce qu'elle est. Elle nous ouvre les portes de ce qui se passe en BD dans le monde. Sans vouloir théoriser ou sans vouloir en faire quelque chose d'intellectuel, de cérébral, cette nouvelle mouture des cahiers de la BD nous donne un aspect actuel de ce qui se passe dans le monde, les expositions, les festivals. Ah, très d'actualité. Rappelle-toi l'événement féministe qu'il y avait eu au Festival d'Angoulême l'année passée ou l'autre année avant. Les cahiers de la BD nous avaient sorti un dossier sur les femmes en bande dessinée avec des interviews d'autrices très connues.
Pour nous permettre de nous donner l'opportunité hors du web de creuser justement ces revendications-là, ouais, de les contextualiser, de les...
Effectivement, là, et c'est toutes ces rubriques-là nous amènent, ils nous font parcourir. On invite un auteur, on lui demande quels étaient tes 5 albums, ce qui nous ouvre un panorama de peut-être de choses qu'on ne connaissait pas, mais la vision qu'ont les auteurs parfois de ce qui les inspire, mais aussi de ce qu'ils lisent, ça peut être aussi inspirant. Alors, tu vois, tout ça fait en sorte que cette nouvelle mouture, c'est Cahiers de la BD, récemment sorti avec de superbes dossiers. Je vous recommande le dossier sur le capitaine Haddock. Pourquoi aime-t-on le capitaine Haddock? Un dossier sur le personnage qu'est le capitaine Haddock dans Tintin. Et souvent ces dossiers-là sont vraiment intéressants. Il y a aussi un aspect critique. On y fait la nomenclature des nouveautés et des gens ont lu et critiquent. Et là, quand je parle de critique, dire si ça vaut la peine ou non de lire. Et est-ce que, moi, ma réflexion, ça, avec tout ce qui se passe sur Internet maintenant, avec tout ce qu'on a accès, est-ce que c'est encore quelque chose qui, tu sais, oui, moi, c'est sûr que on est quelques-uns qui veulent approfondir nos connaissances et tout, et c'est un bon moyen de le faire comme ça. Pour certains, peut-être moins l'intérêt de vouloir avoir une entrevue, lire un truc sur un dossier en BD, c'est peut-être moins. Mais je me dis que avec Internet, qui maintenant, on le sait, avec Internet, tout le monde a une opinion, tout le monde aime un genre, aime quelque chose.
Ben, tout le monde a une plateforme, en fait,
peut-être
au final.
Pas de la bonne façon, mille fois, et d'autres, mais c'est Internet est inondé, Facebook est inondé de ce genre de pseudo-critiques et de pseudo-événements.
En fait, il y a une légitimité, peut-être, en fait, dans un estampe comme les Cahiers de la BD ou comme dans certains portails, dans certaines plateformes, il y a une légitimité qui vient de facto, dans le fond. Si quelqu'un est appelé à écrire dans un truc comme ça, il est légitimé de par la plateforme, tandis que les plateformes auto-générées, comme celles qu'on a actuellement, hein, Marco,
ah oui?
Au final, est légitimé, mais simplement par le contenu et par le sérieux qu'on est capable d'offrir au fil d'une durée déterminée. Donc, c'est acquis plutôt que de facto. Donc, ça devient un privilège, d'une certaine façon, aussi, d'écrire pour ce type de plateforme-là, pour ce genre de revue-là, qui ont cette crédibilité-là au départ, dans le fond. Mais qui doivent le maintenir, qui doivent travailler pour la conserver.
Tout à fait. Chaque numéro est un combat, là, dans le sens que, tu sais, la BD, le risque de se répéter est assez grand, parce que la bande dessinée, c'est pas la littérature qui a des milliers d'années, là, tu sais, milliers d'années, on s'entend que...
Mais heureusement qu'il y a encore des expérimentations. T'sais, on dit toujours que depuis toujours, dans le fond, la BD se réinvente, explore, et c'est encore le cas. Il y a toujours des publications qui nous poussent à chaque année à se demander « qu'est-ce que c'est finalement la BD? De quelle manière? » Donc, ça nous ouvre, ou j'imagine que ça ouvre aussi à des gens qui font une analyse plus savante, plus formelle, entre autres. La possibilité justement de continuer à creuser un peu les possibilités, les limites, les cadres du médium.
Et aussi, ça fait office de pédagogique, c'est-à-dire ça enseigne, ça partage les connaissances et le savoir. Et à mon avis, c'est le genre de truc, c'est le genre de médium qu'il faut se permettre de consulter juste pour agrandir un peu sa vision.
Oui, puis une vision qui techniquement est comme le médium, qui est en constante évolution. Je veux dire, la BD n'est pas fixée dans les années 50, pas plus qu'elle l'est dans les années 2000. C'est un médium qui est en constante évolution, comme toute création, au final, est en constante évolution. Toute discipline artistique ne doit pas faire du surplace.
Tout à fait. Et en plus, il faut que ça reste accessible aux gens. C'est sûr que, comme je disais, c'est pas tout le monde qui va vouloir faire l'effort de consulter autre chose que Internet et tout. Mais on sait que ça existe et on sait que c'est là. Et on sait que pour certaines personnes, ça sera peut-être l'occasion de pouvoir approfondir puis de peut-être découvrir d'autres choses. Parce que même moi, pour te parler de ça, j'ai comparé de vieux numéros que j'avais des cahiers de la BD et les plus récents, la nouvelle mouture, et je regardais, puis c'est au-delà du look, il y a toujours cette façon de vouloir enseigner et de faire partager d'une passion. Là, et ça fait partie du projet.
Puis c'est ce qui unit tous ces médiums-là, dans le fond, au bout du compte, l'idée de s'inspirer, l'idée de proposer, l'idée de partager, l'idée de contextualiser, l'idée d'expliquer, l'idée d'allumer, l'idée d'éveiller, d'accompagner, etc.
Fait, là, c'est... Parler de la BD, tu sais, c'est bien, mais tu sais, moi, je suis assez content de voir que certains auteurs décident de parler de BD, tu sais, avec des... c'est récemment l'histoire de la BD Samson, je pense. Samson avec son histoire de la BD
en deux tomes, puis ouais.
L'histoire au Québec de la BD, puis tous ces ouvrages-là qui sortent sur la BD, on parle de BD. Moi, je suis assez content parce que ça veut dire qu'elle est en vie, puis qu'elle est saine. Si on en parle, et si on fait des ouvrages là-dessus, si on fait des ça veut dire que non seulement ça avance, mais ça montre qu'elle est en vie, puis elle est d'une grande qualité.
Et tout ça à travers une belle invitation, Marco Duchesne, de replonger dans les cahiers de la bande dessinée et dans ces magazines qui nous amènent d'autres perspectives justement autour de la bande dessinée. Alors, c'est ta carte blanche. Merci beaucoup, Marco.
Ça fait plaisir.
Puis on se revoit très bientôt à un club de lecture près de chez vous. On prend quelques instants pour parler bande dessinée, quelques éléments que j'avais envie de vous mentionner rapidement, là, mais notamment bande dessinée de Marion Fayolle, La Maison Nue. Marion Fayolle, une autrice que je retrouve d'une certaine façon avec cette BD-là, puisque j'ai l'impression qu'il me manque les 8 années entre le premier album ou un de ses premiers albums que j'avais lu et sur lequel j'avais mis la main quand j'étais de passage à Angoulême il y a déjà longtemps, et maintenant celui-là, donc La Maison Nue, mais donc, vraiment un album et un peu à l'image des autres qui se situe entre les deux, dans le fond, qui s'inscrivent dans une démarche artistique très riche, très intéressante, dans une exploration de la narration visuelle au final. Et dans La Maison Nue, eh bien, on est un peu dans l'esprit d'un théâtre dessiné d'une certaine façon. Donc, c'est une colocation dans une maison qui est vouée à être détruite. Et donc, les gens se retrouvent à l'intérieur, ces trois personnes-là se retrouvent à l'intérieur de ce domicile-là et vont coexister donc au fil d'une certaine période temporelle jusqu'à la fin de leur relation qui viendra avec nécessairement la fin de la maison. Il y a la personne qui est là au départ, qui évidemment ressent le besoin de ne pas être seule, de partager son quotidien. Il y a ces deux personnes-là qui viennent la joindre, qui ont eux aussi besoin de partager leur quotidien, de faire peut-être un peu des contrepoints d'ailleurs un peu et des échos, des résonances à ce premier personnage-là. Donc, dans la mesure où chacun des trois va se questionner sur différents éléments, va apporter d'autres éléments à la dynamique globale, trois personnages qui sont d'une certaine façon un peu brisés aussi, chacun à leur façon, mais qui, de par la jonction entre les trois, ben, vont se trouver peut-être une place, vont se trouver un rythme ou à tout le moins vont se trouver une certaine sécurité qui va leur permettre d'avancer, qui va leur permettre de trouver des réponses à leurs questions, à leur regard sur le monde. Dans ce choix, au bout du compte, de s'emmurer, entre guillemets, à l'intérieur de cette maison-là, à l'intérieur de cette existence-là. Évidemment, les jeux de résonance vont s'amplifier au cours du récit. On va intégrer des ruptures graphiques, on va intégrer des jeux de comparaison, des jeux d'exagération, des jeux de personnification. On va intégrer multi-symboles, des intégrations dans l'esprit des uns et des autres. Bref, on va explorer à travers cette dynamique-là la psyché de ces trois personnages-là. Tout ça dans l'approche classique par laquelle Fayolle semble, de ce que j'ai compris au fil de lecture, choisir justement de mener son travail. Donc, des dessins qui ont un aspect un peu, à défaut d'un meilleur terme, un peu rétro. Et donc, je crois qu'elle imprime ses dessins sur des feuilles en plastique. Elle utilise ces supports-là pour ensuite les reporter sur des feuilles blanches. Donc, il y a un côté très particulier qui ressort. Et c'est ce qui m'avait frappé au départ. En fait, je pense que c'est un coup de foudre visuel d'abord que j'avais eu avec Fayolle plutôt qu'un coup de foudre thématique. Dans la mesure où cette approche visuelle-là, je trouve, la distingue et lui donne un trait très particulier qu'elle réussit à maintenir et à pousser, à renouveler, dans le fond, avec le temps, autant dans les quelques albums que j'ai, autant dans ceux que j'ai feuilletés à distance, si on peut dire, pour essayer de retracer, de contextualiser cette décennie de création. Et donc, on a une richesse graphique que je trouve qui est très intéressante dans le fond, qui laisse énormément de place à l'évocation, justement. Je parlais du côté symbolique tout à l'heure, mais on a énormément de place qui est laissée à l'aspect symbolique. On a énormément de place qui est laissée à l'expérimentation, qui peuvent nous permettre, justement, de comprendre, de saisir, de voir l'intimité autant que de jouer avec justement les relations entre ces trois personnages-là, de jouer avec un froid, avec un malaise, autant qu'avec un état d'union, d'unité. Et au final, ben c'est une série de moments qui vont être illustrés à l'intérieur de ce rapport-là. J'avais lu dans une critique à un moment donné de la notion d'herbier sentimental. J'ai bien aimé cette image dans la mesure où on va sélectionner justement des moments qui sont évocateurs pour un ou l'autre ou les trois personnages, des moments qui sont marquants, des moments qui sont intimes, des instants qui sont pertinents, dans le fond, pour une compréhension globale de ce qui se passe, pour nous permettre d'animer notre réflexion par rapport à ce que Fayol est en train de nous proposer à travers tout ça. Bref, c'est quelque chose que je trouve qui est riche, qui est fort, évidemment, qui n'est pas nécessairement non plus... En fait, il faut avoir envie de plonger dans ce type d'ouvrage-là, il faut avoir envie de plonger dans ce type d'esthétique-là, dans ce type d'expérience-là comme tel, mais du moment où on choisit de s'y rendre, du moment où ce style et cette approche-là nous intrigue, eh bien, je pense qu'il y a quelque chose à l'arrivée qui est intéressant et qui mérite justement d'être consulté dans une bande dessinée qui, à mon sens, justement, donc se distingue. Bref, à découvrir, en fait, j'en dirai pas trop. J'ai l'impression que je dis à peu près rien non plus. C'est difficile à décrire. C'est d'abord peut-être une ambiance, d'abord peut-être un état d'esprit et d'abord peut-être une réflexion, mais excessivement bien amené là, sur papier. Alors, je crois que c'est chez Magnani, donc cette maison nue de Marion Fayol qui est sortie, je crois, en cours d'année dernière, donc un peu de rattrapage de ce côté. Puisqu'on est sur du rattrapage, je mentionne également au passage, si vous aviez manqué ça, il y a une compilation de Baptiste, donc d'André-Philippe Côté qui a été publiée chez Station T. Donc, petite maison d'édition qui a été cherchée, dans le fond, la plupart de ces Baptistes qui ont été publiés dans les pages du journal Le Soleil au fil des années, entre autres 90. Et c'est souvent l'enjeu et le défi, au final, avec des productions qui sont dans les pages de journaux, eh bien, c'est que ça se perd, c'est quand même difficile à retracer. Et quand il y a des personnages qui nous amènent dans une réflexion, dans une philosophie, dans un humour bien particulier, bien sympathique, comme Baptiste, eh bien, c'est intéressant de pouvoir, des années plus tard, les retrouver, ces personnages-là, replonger dans ces propositions-là, trouver et redécouvrir l'humour et la finesse des mots d'André-Philippe Côté dans les réflexions qu'il met dans la bouche de ce personnage qui vit dans une poubelle, ce philosophe presque qui vit dans une poubelle et qui commente l'existence autant qu'il nous amène dans différents instants et différentes narrations. Alors, ça reste fort intéressant, d'autant en plus que les premières pages chez Michel Viau qu'on mentionnait tantôt incidemment, donc qui nous contextualise le personnage de Baptiste et son évolution aussi jusqu'aux pages du Soleil comme tel, parce que ce n'est pas là qu'il est né. Et bref, pour les amateurs du personnage, qui ont envie de le retrouver, qui ne savaient pas que cette compilation-là existe, allez-y, vous ne serez pas déçus. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui apprécient, dans le fond, ce type d'éléments-là, ce type de personnage, univers, toujours avec une forme de strip quand même, c'est des récits très courts, c'est quelques cases au final, des fois une seule, ben encore là, ça reste et ça demeure fort intéressant. Et tout ça, ben, d'autant donc qu'on ajoute, qu'on bonifie un peu les archives du contenu BD et de publications qui étaient essentiellement limitées à des journaux ou à des magazines, mais de pouvoir les retrouver sous d'autres médiums, sous d'autres formes. Alors, ça, c'est Baptiste, l'homme qui vivait dans une poubelle d'André-Philippe Côté. C'est du côté, donc, de Station T. Et je fais un très, très rapide clin d'œil, puisque, dans le fond, il y a également, donc, une bande dessinée, enfin, un album dessiné, disons-le comme ça. Donc, un peu comme ça s'était fait, je crois, avec, entre autres, les 12 travaux d'Astérix. Donc, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, donc, le film réalisé par Guillaume Canet, qui est sorti il n'y a pas si longtemps en salle, eh ben, il y a aussi une bande dessinée qui nous offre le récit de la bande dessinée, donc avec des illustrations originales et un texte, dans le fond, donc ce n'est pas une BD comme telle, plus que c'est pour ça qu'on parle d'un album dessiné. Et évidemment, ben, le film et la BD, c'est la même histoire, c'est le même narratif, donc le chariot qui débarque au village gaulois avec la princesse Fu Yi, fille unique de l'empereur Han Xuandi, venue demander de l'aide après le coup d'état du prince Mavelan Den Xingqin, qui a renversé l'impératrice. La réputation des irréductibles gaulois est connue ainsi jusqu'à Shanghai. Et donc, on découvre donc ce texte d'Olivier Gay qui résume, dans le fond, le film de Guillaume Canet avec un dessin de Fabrice Tarin, qui a choisi d'ailleurs, en fait, Tarin, de ne pas été chercher l'imagerie du film, mais de développer tout de même donc l'image de l'album. Et donc, il n'a pas vu le résultat de Canet comme tel. Donc, il a choisi de rester plutôt fidèle au code du dessin d'Albert Uderzo. Donc, on se retrouve plus dans, un peu comme si, dans le fond, l'Astérix avait été un Astérix et Obélix dessiné. Donc, plutôt que de développer justement un pendant précis de ce qui était offert là, dans le film comme tel. Alors, si jamais vous avez adoré le film et que vous avez envie de vous replonger dans tout ça, eh bien, pourquoi pas l'album dessiné? Ça reste un objet de qualité. Et si vous êtes un complétionniste, évidemment, d'Astérix, ben, c'est le genre de truc que vous allez avoir envie de mettre la main sur, si je fais une grammaire assez approximative. Et ben, du reste, ça reste donc quelque chose de bien correct là, dans le genre qui rappellera donc les albums dessinés qui ont accompagné par ailleurs là, d'autres films des aventures d'Astérix le Gaulois. Alors ben voilà, donc pour ces quelques petits clins d'œil et commentaires BD. Alors voilà qui conclut cette édition de La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine.